Bonsoir. L'an 1 ou presque d'Emmanuel Macron qui est venu hier soir à la télé défendre ses choix, l'international, la fiscalité, les réformes. Alors quels sont ses choix européens? Alors ce genre de sujet arrivant en général à la fin d'une émission, il n'a pas eu le temps de les développer. Partie remise donc, puisque demain le président de la République s'exprimera pour la première fois devant les eurodéputés à Strasbourg. Dans un contexte particulier, avec la réélection du Hongrois Viktor Orban, la coalition des extrêmes en Italie, laquelle est fragilisée par sa dette. Alors, face à tous ces doutes, Emmanuel Macron saura-t-il réformer l'Europe? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Avec sur le plateau de BFM Business, invité exceptionnel, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, qui est avec nous, qui publie « Dans ce clair-obscur surgissent les monstres », récit du quinquennat de François Hollande, vu de l'intérieur. Sur fond d'espoir, de désillusion, de louvoiement, de trahison. Emmanuel Le Chypre est avec nous, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis François Langlais, ex-BFM Business, c'est lui qui avait d'ailleurs lancé l'idée des décodeurs de l'écho il y a presque 6 ans maintenant, quand il dirigeait la radio, la télé, RTL, France 2, et qui vient ce soir surtout pour nous parler de tordez le cou aux idées reçues. Voilà. Avec des a priori comme la Chine va nous dévorer, les robots vont tuer les emplois, le salariat va disparaître, les immigrés prennent le travail des Français, l'euro a fait grimper les prix. On y reviendra, donc c'est François Langlais qui sort son dernier opus, déjà un best-seller. Alors, Pierre Moscovici, interview du président à la télévision, donc discours européen demain. Alors je ne sais pas dans quelle catégorie vous classez Macron dans votre livre, dans ce clair-obscur surgissent les monstres, hein, espoir, trahison. Je ne sais pas. Comment est-ce que vous auriez envie de souhaiter donc cet anniversaire de l'an 1 ou presque d'Emmanuel Macron à l'Élysée?
Il a changé le visage. Comme un bon Européen, je souhaite naturellement que mon pays réussisse et qu'Emmanuel Macron prenne sa part dans la relance de l'Union Européenne. Parce que le titre, déjà, à mon avis, est un peu à côté de la plaque. Saura-t-il relancer l'Europe? Il y contribuera.
Oui.
La France, comme d'habitude, plus encore avec un président pro-européen, doit être au premier rang, avec la Commission européenne, mais on fait l'Europe avec des Européens.
Il y a des accueils.
Il faut être 27 ou 28.
Oui, bon.
Il faut aussi que les Allemands soient dans le coup. Et donc, quel que soit le talent ou la conviction du président de la République française, il faudra qu'on s'y mette à plusieurs tout de même.
Bon, tout de même. Bon, n'empêche, le visage de la France, il a changé en un an, clairement, quand on vit à Bruxelles en permanence, quand on est commissaire européen, Pierre Moscovici.
J'ai toujours détesté, pour ma part, les formules qu'on passe de l'ombre à la lumière. Ou encore Francis Bach.
Ça, c'était Jacques Lang 80.
Je vous avoue que Francis Bach, ça m'emballe pas non plus. Parce que pourquoi? Parce que ça supposerait que la France avait disparu. Et non, je vois...
Non. C'est pas qu'elle avait disparu.
Ça n'est pas le cas.
Ouais.
La France, heureusement, la France, le pays, l'État, la nation, est toujours un des pays principaux de l'Union européenne. Pendant 5 ans avec François Hollande, la France n'a pas été déshonorée ou déshonorante dans son attitude européenne. Cela dit, ce qui est vrai, c'est 2 choses. C'est d'abord que la France va beaucoup mieux sur le plan économique, comme le reste de la zone euro d'ailleurs, que sa croissance est maintenant solide. Et c'est aussi que Emmanuel Macron, et de cela je le félicite, est beaucoup plus vocal, beaucoup plus engagé, avec un discours européen plus fort et volontaire que celui de François Hollande. Mais encore une fois, vous savez, quand vous allez évaluer ce qui va mieux, vous allez regarder la part de ce qui était lancé avant, de ce qui est fait maintenant, vous allez trouver quelque chose de partagé. Donc moi, pour ma part, peut-être c'est mon côté, avec le temps, devenant un peu radical, pas seulement socialiste, pas trop, ni dans un sens ni dans l'autre, mais j'ai tendance à vouloir objectiver un peu les choses.
Oui, non, pardon, ma réserve, j'ai pas dit que sous Hollande c'était l'ombre et sous Macron c'était la lumière. Simplement, c'est vrai que les investissements étrangers sont au plus haut depuis 10 ans. C'est Business France, donc l'agence officielle, qui le révélait il y a 10 jours, donc en plus au siège de Cisco France, qui est quand même pas innocent, plus 16%, les États-Unis qui repassent devant l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. C'est pour ça que voilà, on avait envie d'utiliser l'expression Francis Bach, qui était
l'ombre, elle a été portée quand même.
Alors Emmanuel.
C'est pas François Hollande, mais il faut quand même reconnaître que la décennie, enfin la période 2000-2010, pour faire simple,
Donc Chirac, Sarkozy et un peu d'Hollande.
De la construction européenne. Alors pour des raisons qui ne tiennent pas évidemment uniquement à la France, mais pour des raisons qui tiennent en partie à la France. Il y a eu quand même beaucoup dans ces périodes-là d'égoïsme, beaucoup de manque de courage et beaucoup de manquements à l'idéal européen, pas que de la part des Français, mais aussi un peu de la part des Français.
Alors François Langlais qui tord le cou aux idées reçues. Allez-y, question, remarque peut-être au commissaire européen.
Non, je pense qu'il y a deux choses qui superposent. Il y a la situation française. On sort quand même d'une longue éclipse économique qui a duré une dizaine d'années, enfin depuis la crise de 2007, et que le mandat de Sarkozy, qui a ombré le mandat de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande. Parce qu'en réalité, la crise a été double. Elle est repartie profondément en 2012 et assez gravement en Europe dite du Sud, si on intègre la France là-dedans. Bon, ça, ça va mieux. À quoi est-ce que c'est dû ? Évidemment, à ce qui a été fait auparavant, à la reprise mondiale, et probablement aussi à ce que vous soulignez, c'est-à-dire le sentiment qu'une équipe neuve arrive et que ça donne toujours un coup de fouet, qui peut être artificiel d'ailleurs. Maintenant, il y a un autre cycle parallèle qui lui me semble beaucoup plus problématique, c'est le cycle de l'appétit d'Europe. Il me semble, comme observateur, et là je ne mets pas en cause ni les personnes ni les projets, mais que après une longue période de construction européenne où on s'est tenu au premier article du traité, quoi, une union toujours plus étroite ou sans cesse plus étroite, je ne sais plus quelle est la formulation exactement. Aujourd'hui, on repart de l'autre côté. Chaque fois qu'il y a une élection, sauf en France, c'est vrai, mais l'idée européenne, l'idée, disons, de futur partagé est malmenée. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Regardez la situation politique en Allemagne. Je ne parle pas de l'Europe de l'Est parce que les déterminants politiques sont probablement spécifiques. Tout ça me fait dire que il est possible qu'on entre dans une éclipse du projet européen et que il est à craindre que si c'est le cas, si on se fie à ce qui s'est passé auparavant, c'est des éclipses qui peuvent être longues et qui, malgré la bonne volonté, justement, se heurte au sentiment des peuples qui veulent de la protection des frontières.
Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier quand on jette un regard sur le passé, c'est qu'on sort d'une décennie qui a été une décennie de crise. Et que maintenant, on entre dans une autre période qui devrait être une période de croissance relativement longue et solide. Quand je dis relativement longue et solide, c'est parce que nous sommes capables, je pense, de prévoir les deux prochaines années. Ensuite, on entre dans un autre horizon et il y a tout de même des facteurs d'instabilité, parmi lesquels le protectionnisme. Je serai après-demain à Washington pour les réunions annuelles du Fonds monétaire international et j'imagine que ça fera partie des risques que soulignera Christine Lagarde, et on le voit bien, et ça a un impact à la fois sur la productivité de nos économies, mais aussi sur les mouvements financiers et boursiers. Maintenant, on entre dans une autre période économique, et de ce point de vue-là, il faut être capable, comme l'a fait Emmanuel Macron, de prendre ses risques, il faut avoir de la chance, il a les deux, mais encore une fois, je le dis pour les deux précédents présidents au fond, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ils ont gouverné. Maintenant, nous sommes confrontés, et c'est pour ça que mon livre s'appelle « Dans ce clair-obscur, surgissent les monstres ». Quels sont les monstres ? Les monstres, pour moi, c'est le nationalisme, c'est le populisme, c'est l'antisémitisme qui menace toujours, c'est le fanatisme, c'est l'intolérance, c'est le terrorisme. Et on est dans cette période-là où, paradoxalement, alors que l'Europe retrouve la croissance, et une croissance solide, et j'espère durable, le sentiment d'inégalité est au plus fort. Et la frustration de cette longue période de crise engendre un repli sur soi qui se tourne souvent vers celui qui est différent. Et celui qui est différent est souvent l'immigré, l'étranger. Et c'est ça qui est très difficile. Observez en plus que, c'est vrai, on a un cycle politique qui maintenant est là depuis un an et demi, deux ans, où la France a été un coup d'arrêt. Il y avait au fond la grande bataille de France qui a interrompu la progression des populistes, Autriche, Pays-Bas, et puis voilà, en France, ça a été net, et Madame Le Pen en plus s'est vautrée dans le débat d'entre deux tours en abordant mal la question européenne. Mais après l'élection française, ça n'a été qu'une embellie. Regardez les élections République tchèque, regardez la Hongrie, regardez l'Italie, regardez l'Autriche, regardez l'Allemagne même, où un parti d'extrême droite est revenu pour la première fois au Bundestag depuis les années 50. Et donc, pour relancer l'Europe, car il s'agit bien de ça, il faut une énergie, une volonté inébranlable. C'est la raison pour laquelle il y a deux choses qui sont très importantes cette semaine. Le discours du président de la République, sans doute, où j'imagine il marquera sa volonté inébranlable de relancer l'Europe.
Ce que dit l'Élysée, c'est qu'il annoncera qu'il exprimera l'urgence qu'il y a à agir dans un contexte difficile au sein de l'UE, mais aussi à l'extérieur. Allusion, j'imagine, à l'Italie, à la Hongrie, par exemple.
Sans doute. Ouais. Et puis, par ailleurs, la deuxième chose qui est très importante, c'est la rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Parce que si, vous savez, la petite expérience que j'ai des affaires européennes, ça fait tout de même 25 ans maintenant que je fais ça pour l'essentiel. J'étais parlementaire européen il y a 25 ans pour la première fois. C'est que si vous n'avez pas Paris, Berlin, Bruxelles alignés, il ne se passe rien. S'ils sont alignés, ça ne suffit pas forcément. Et là, on voit bien quand même que Madame Merkel, j'ai vu des papiers qui venaient de son parti aujourd'hui même.
Ah bah encore aujourd'hui,
faut que la France et l'Allemagne haussent le niveau de jeu et prennent des initiatives. Sinon, le sommet de juin sur la zone euro risque d'être décevant. Et là, c'est décisif.
Ouais, et vous avez raison, parce que le projet d'Emmanuel Macron, on y reviendra d'ailleurs avec François Langlais, avec Emmanuel Le Chip et vous-même, c'est la création d'un ministère européen des finances, d'un budget pour la zone euro, pour refonder l'Europe autour de l'euro. Cet après-midi même, la secrétaire générale de la CDU, donc la numéro 2 de la CDU, critique les projets français. C'est pas une bonne idée d'avoir un deuxième budget distinct. On va y revenir. Oui, Emmanuel, me faisiez signe.
Non, mais je crois qu'il faut remettre aussi par rapport au cycle qu'évoquait François. Il a son origine dans un autre cycle, qui est le cycle qui a été celui d'un libéralisme, j'ai presque envie de dire idéologique quand même, et qui a sévi en Europe, à la Commission, dans les années 90.
Barroso, par exemple.
Et on a quand même fait, rappelez-vous quand même ces années 90, où on ouvre tous les grands secteurs à la concurrence parce que on écrit, et ça a disparu ensuite, que ça va être bon pour le consommateur de façon relativement idéologique. C'est l'époque où finalement on affaiblit tout un tas d'entreprises européennes sous prétexte de ne surtout pas les avantager par rapport à d'autres entreprises dans le monde pour ouvrir à la concurrence, que ne faisaient ni les Américains ni les Chinois. Et donc il y a quand même eu une vague, une décennie idéologiquement libérale qui a fait beaucoup de dégâts. C'est l'époque où on a produit des normes à tour de bras et où les Européens, et notamment les Français, se sont dit, mais finalement, l'Europe, elle ne nous protège pas. Au contraire, elle nous expose à tous les vents. Cette idée de l'Europe forteresse, finalement, était complètement ébranlée. C'était cette idée que l'Europe ne nous protégeait pas, elle nous embêtait. Et il y a quand même eu ce désamour de l'Europe. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même énormément de choses qui ont changé depuis la crise. Si vous prenez tous les mécanismes qu'on a mis en place pour assurer davantage de stabilité financière, tout ce qui se fait maintenant au niveau... on reconnaît aujourd'hui que la rigueur budgétaire, elle a été excessive. Il y a un grand plan de relance européen. Moi, je trouve que les curseurs sont en train de bouger de façon quand même intéressante, avec ce défi qui est comment faire pour aujourd'hui protéger l'Europe sans faire de protectionnisme.
Alors oui, alors comme on dit revenir sur le protectionnisme, mais que dit François Langlais dans ses idées reçues auxquelles il veut tordre le cou? L'union monétaire protège l'Europe, c'est ce qu'on entend souvent. Vous, ce que vous dites, l'euro n'a pas menacé la domination du dollar. Il n'y a pas de convergence, mais au contraire, une accentuation des différences. Ça veut dire quoi? Le rôle de la BCE est en cause ou pas, François Langlais?
Non, sur ce point précis, je pense que, tous les gens qui étaient à l'origine de ce projet, de ce beau projet, justement, d'union sans cesse plus étroite, ont pensé que l'euro allait nous apporter une espèce de félicité quasiment automatique. On n'a pas lu le mode d'emploi sur la boîte. Je veux dire, les problèmes ne viennent pas tant de l'euro que de la façon dont on l'a fait. Et de ce point de vue, nous avons laissé fonctionner, nous, Français, notre absence de modèle social, la difficulté à régler les paramètres de la compétitivité, comme le font les pays du nord de l'Europe, et tout en gardant une fixité monétaire qui, mécaniquement, justement, empêchait l'ajustement. Donc c'est plus la façon dont on l'a appliqué que le problème de l'union monétaire. Et nous n'avons pris la mesure des difficultés et des nécessités de changer nos politiques économiques à cause de l'euro, comme pendant la crise, lorsque les problèmes se sont révélés. Juste un point pour rebondir sur ce que disait Emmanuel à propos du cycle. Je pense que la naissance du cycle libéral, elle est antérieure. Ce sont les années 80. Et de ce point de vue, le premier, même avant, hein, je pense que le Jacques Delors, finalement, surfe sur la vague libérale pour construire l'Europe. C'est une façon de domestiquer la pulsion libérale et de lui trouver des habits proprement européens. C'est l'acte unique. Donc, de ce point de vue, le libéralisme a aussi produit des choses positives. Hein. Et je pense que, notamment les années 80, il a en quelque sorte dépoussiéré nos pays, et singulièrement la France. Pour autant, je partage votre analyse sur la suite du film, c'est-à-dire que on n'a probablement pas vu que il fallait inverser la vapeur et que pour ne pas se couper des citoyens, il fallait une Europe qui protège. Juste un mot,
François Langlais.
Je pense que le projet d'Emmanuel Macron est aussi un projet d'avant. et qu'il n'a aucune chance.
L'idée de la création d'un ministère européen des finances,
ce sont des choses qui sont c'est des projets de beau temps, si vous voulez. Hein. Mais nous ne sommes plus en beau temps de ce point de vue.
Est-ce que c'est clair à vos yeux ce projet d'Emmanuel Macron, Pierre Moscovici,
je partage
qui
pas
va financer le budget de l'eurozone, de quel pouvoir disposera ce fameux ministre de l'économie de la zone euro?
Je ne pense pas que ce soit des projets de beau temps. Je pense que ce sont des projets importants qui tiennent justement compte du fait qu'on a réalisé un euro incomplet, auquel manquait une dimension dynamique, c'est-à-dire comment stimuler la croissance, renforcer l'investissement, lutter contre le chômage, et il manquait aussi une dimension démocratique, que moi je vois dans l'Eurogroupe. L'Eurogroupe, c'est la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Franchement, tout ce qu'on a décidé sur la Grèce, sans qu'il y ait le moindre contrôle, sans qu'aucun d'entre vous, journalistes, ne sache ce qui se passe dans la pièce, sans qu'un parlementaire ne sache ce qui se passe dans la pièce, quand vous êtes dans une pièce fermée et que vous avez tous les pouvoirs, alors il y a une espèce comme ça de d'exubérance irrationnelle.
Mais on sait pas qu'on a lu les livres de Yanis
Varoufakis. Et bien, vous savez comment on peut mentir là-dessus, mais c'est intéressant parce qu'il a raconté ce qui se passait. Moi, si j'en écrivais un, je dirais pas la même chose que lui. Mais il n'empêche que ça prouve bien qu'il y a une boîte noire là, et il faut sortir de la boîte. Et donc, de ce point de vue-là, je soutiens depuis longtemps la proposition d'un ministre des Finances de la zone euro, qui soit aussi vice-président de la Commission. Je soutiens l'idée d'un contrôle du Parlement européen et je soutiens l'idée d'un budget de la zone euro, justement pour soutenir l'investissement et aussi pour réduire le chômage.
Vous seriez candidat pour y aller ou pas, vous ?
Attendez, la question c'est, est-ce qu'il y a une chance que ça fonctionne ? Ça, c'est plus douteux. C'est-à-dire que dans le contexte politique, il va falloir encore une fois mettre beaucoup, beaucoup de capital politique et d'énergie. Mais pourquoi est-ce que je pense que ce ne sont pas, comme vous dites, des réformes d'avant ? Je crois qu'elles sont indispensables maintenant, parce que le grand problème, c'est celui que vous pointez. Vous l'avez nommé, c'est l'absence de convergence, c'est même la divergence. Si on a dans 10 ans d'ici une zone euro où on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui, abrités derrière un régime monétaire, profitent, accumulent des excédents massifs, pensez que l'excédent en Allemagne ou aux Pays-Bas de 9% du PIB par an, une surépargne considérable, un sous-investissement gigantesque, pendant que d'autres font des efforts sans arrêt pour réduire leur déficit, pour réduire leur dette, à ce moment-là, vous allez créer une double insatisfaction. Insatisfaction au Nord, et c'est aussi ça que disent les papiers de la CDU, c'est nous, on ne veut pas payer pour les autres. Ils ont toujours ce vocabulaire, réduisons les risques, avant de les partager. Et si vous avez réduit tous les risques, vous n'avez plus rien à partager, par définition. Donc il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait, à côté de la responsabilité qu'on demande aux uns, la solidarité des autres. Et de ce point de vue-là, il faut absolument mettre en place des mécanismes macroéconomiques qui créent de la convergence, à nouveau, qui réduisent les divergences. Sinon, politiquement, on aura d'autres adversaires que Mme Le Pen et ses délires, ou les anti-euros d'aujourd'hui. On aura juste des gens qui auront constaté que l'euro aura créé trop d'inégalités. Et cette question des inégalités, c'est celle qui, pour moi, taraude nos sociétés.
Mais reconnaissez que l'Allemagne n'est pas fair-play, parce que, objectivement...
Il ne semble pas que je suis en train de dire qu'ils sont...
Non, mais le fameux miracle allemand, quand même, des années 2000, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais il est quand même très largement fondé sur une surcompétitivité de l'industrie allemande, grâce à une monnaie qui est sous-évaluée par rapport au niveau de l'industrie allemande. Donc, il y a quand même eu cet avantage considérable. Il serait normal que les Allemands, entre guillemets, acceptent de redistribuer en partie. Et puis là où on a commis une erreur, mais alors une erreur théorique, fondamentale, quand on a conçu l'union monétaire, c'est que, pour des raisons que je ne comprends pas aujourd'hui, on a pensé que finalement, en ouvrant et en laissant circuler les capitaux, les hommes, les marchandises, etc., on allait provoquer de la convergence. Et ça, c'était quand même un raisonnement très puissant. C'était un argument majeur qui était avancé quand on a fait l'union monétaire. Il y a aucun économiste qui comprend ça. C'est-à-dire que forcément, si tout le monde peut circuler, si les capitaux, les gens, les machines, les marchandises peuvent circuler, vous avez une allocation des ressources qui se fait de façon optimale, et chacun se spécialise dans ce pourquoi il est le plus fort. Et donc, les Allemands vers
l'argent et les ressources humaines les plus qualifiées vont dans les zones les plus compétitives.
Aussi,
c'est la polarisation, la croissance qui crée les inégalités.
Et ça, c'est quand même une tendance lourde qui était pas prévisible, qui était ça a été une erreur majeure là pour le coup.
C'est là où le drame.
Pierre Moscovici.
Le drame est politique. C'est-à-dire que je veux pas.
Parce qu'on aurait inventé les mécanismes de redistribution pour y aller avec ça.
Je ne veux pas accabler l'Allemagne, dire c'est de sa faute, etc. Mais le fait est qu'on arrive à un moment où ça ne peut plus durer. Cette surévaluation, ou cette asymétrie, ou cette absence de mécanismes de régulation. Enfin, appelez-le comme vous voulez. Et c'est précisément le moment où c'est très compliqué de rectifier le tir, parce que la donne politique en Allemagne, c'est complexifié. Vous avez un affaiblissement des sociaux-démocrates, le parti pro-européen traditionnel avec la CDU. Vous avez un durcissement de la CDU. Vous avez une CSU qui est l'allié bavarois de Madame Merkel, qui ne veut pas laisser d'espace à droite à l'AFD, qui elle-même va vers l'extrême droite.
Vous avez bref, considère que l'islam ne fait pas partie de l'Allemagne, par exemple, sur le voilà. Quand on parle des migrants.
Vous avez un
par
parti qui s'appelle le Parti libéral, qui est le parti historiquement du business, de la bourgeoisie éclairée, qui lui aussi se tourne contre l'Europe. Donc pour Madame Merkel, alors qu'il est plus nécessaire que jamais de bouger, c'est plus compliqué que jamais dans son dernier mandat avec une configuration politique complexe. Et c'est pour ça que je parlais de cette rencontre Merkel-Macron jeudi. Elle est très importante. Et d'une certaine façon plus importante que le discours,
de demain.
Parce que si ce jour-là, il n'y a pas un bouger commun, ça deviendra très très difficile pour le mois de juin. Ce sera court, et si vous n'avez pas là l'énergie... Alors, moi, je pense que Madame Merkel est une femme remarquable, qu'elle reste pro-européenne, qu'elle a envie de bouger. Et là aussi, est-ce que le risque sera pris, comme elle a pris finalement un risque sur les réfugiés? Je ne sais pas. Je l'espère. Parce que la grande question pour elle, c'est qu'est-ce qu'elle va laisser? Et sur le dernier mandat, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'elle peut laisser? L'Europe. Et on peut pas la laisser sur des décombres ou sur des inégalités croissantes ou sur des tensions qui nourrissent elles-mêmes le nationalisme. Les monstres, qu'est-ce que c'est au fond ? Nous ne sommes pas dans les années 30. Nous n'avons pas aujourd'hui un Hitler, nous n'avons pas un Mussolini. Mais nous avons quand même
vous avez plein de petits Mussolini,
plein de petits nationalismes comme ça, qui s'ils se coagulent, si on les laisse passer comme anodins, si on les tolère, si on les banalise... Je ne sais pas ce qui se passe, moi, disons.
Sur l'échelle des doutes, des risques, c'est quoi la principale menace? La réélection d'Orban, c'est une menace pour l'Europe, la Hongrie qui refuse d'accueillir des migrants selon un quota décidé par la Commission. L'Italie,
Je vous dire ce qui m'a frappé le plus après l'élection d'Orban. Après, bon, qu'il ait gagné, c'est son troisième mandat. Surprenant qu'il ait gagné autant. L'opposition n'a pas su, etc. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est que le ton des médias le lendemain n'était pas le même que la veille. Au fond...
Des médias hongrois ou...
Français.
Ouais.
Je ne veux pas citer tel ou tel de vos collègues qui sont des bons connaisseurs de l'économie, mais au fond, il avait gagné, donc il est légitimé. Et tout à coup, alors que l'idée c'était on va le marginaliser dans le PPE, le Parti conservateur européen, Madame Merkel, tout à coup, c'est normal. Ils l'ont félicité chaleureusement. Et ce modèle, le modèle de la démocratie illibérale, n'est plus un modèle tabou pour des partis qui sont des partis mainstream. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est pas Monsieur Orban, on le connaissait déjà.
Le PPE également de Monsieur Fauquier quelque part aussi, qui lui-même tiraillait entre.
Oui, mais
de chasser sur les aires de l'extrême droite et puis
Orban, Fauquier et des marginaux dans le PPE, ils peuvent devenir centraux.
Mais alors
François Langlais.
Oui, une question que j'aimerais vous poser parce qu'au fond, on est d'accord sur le constat. On voit bien la puissance de ce mouvement et de cette marée des monstres qui se profilent. Quelle que soit la taille qu'on leur donne. Effectivement, si on les compare à ceux des années 30, évidemment, on prend des gros, gros monstres. Mais les petits monstres peuvent devenir gros. Mais n'y a-t-il pas une responsabilité de l'élite pro-européenne dans nos pays qui n'a pas su répondre à la colère causée par les inégalités, à la crainte causée par l'ouverture des frontières? C'est-à-dire, est-ce que les libéraux, pour faire pièce aux illibéraux, n'ont pas été quelque peu aveugles et un peu arrogants dans leur souhait de faire ce qu'ils appelaient de la pédagogie complètement inopérante sur des catégories sociales défavorisées, parce que c'est cela dont on parle. On le voit dans les cartes électorales italiennes, britanniques, françaises, de façon très claire. Les gens qui sont aujourd'hui, le parti de l'Europe, c'est le parti des riches. Donc, n'y a-t-il pas une responsabilité dans l'élite pro-européenne ?
Alors, Pierre Moscovici, la réponse.
Elle me paraît évidente. Je suis un social-démocrate qui a été élu pendant 20 ans dans l'Est de la France, dans une terre ouvrière.
Le Doubs.
Qui a voté à 49% pour Marine Le Pen dans une élection où elle a fait 33%. Les ouvriers de Sochaux, qui ont été mes électeurs pendant 20 ans, ils ont voté sans doute pour Marine Le Pen à plus de 50%. Il y a cette rupture, cette espèce de sécession des élites à laquelle on doit faire absolument attention, parce que si on a justement des riches qui vivent dans des métropoles ou qui vivent entre eux ou qui vivent sur une vie internationale sans connaître en quoi que ce soit, il n'y a plus de colonies de vacances, l'école privée a pris sa place, il n'y a plus d'espace de socialisation, on a repoussé certaines populations à l'écart des villes. Prenons-y garde. Et c'est vrai que pendant la crise, les remèdes qu'on a apportés étaient des remèdes au problème de la dette, et on s'est surtout attaqué à ça. On n'a pas du tout parlé des créditeurs, et donc on n'a pas parlé des inégalités. Et c'est aussi ce qui explique d'ailleurs le recul historique de la social-démocratie, c'est que ces électeurs qui étaient en première ligne se sont tournés vers ses représentants en disant « vous n'avez pas fait une politique pour nous ». Et pourtant, on n'a pas besoin aujourd'hui, je pense, de plus de libéralisme, mais de plus de règles intelligentes capables de lutter contre les inégalités.
Allez, on se retrouve dans un instant avec les décodeurs de l'écho, avec Pierre Moscovici, avec Emmanuel Le Chypre, avec François Langlais. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, dans une Europe qui doute, hein, le président de la République va s'exprimer pour la première fois demain devant les eurodéputés à Strasbourg. Et puis, autre grand rendez-vous de la semaine, sa rencontre donc avec Angela Merkel, donc pour faire bouger l'Europe. Ce sera jeudi. Une Europe où on parle beaucoup d'inégalités. Juste un mot, dans un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne, tiens, si vous étiez ministre suisse, Pierre Moscovici, qu'est-ce que vous feriez? Il y a un nouveau record de 9 milliards de francs suisses de surplus budgétaire qui a été annoncé. Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut redistribuer? Qu'est-ce qu'on fait, justement, en ce moment?
La Suisse, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est pas un pays membre de l'Union Européenne, elle a donc pas de solidarité avec les autres.
Mais de façon générale, quand il y a des surplus, qu'est-ce qu'on en fait?
Parlons d'un pays qui s'appelle l'Allemagne,
oui.
Qui a des surplus beaucoup plus importants que la Suisse. Eh bien, je pense que l'Allemagne a besoin d'investir. Elle a besoin d'investir pour elle-même, parce que paradoxalement, les infrastructures allemandes sont dégradées. Et elle a besoin d'investir pour les autres, parce que elle est la force motrice de la zone euro. La Suisse, c'est compliqué d'investir, parce que les trottoirs sont déjà plus qu'arrangés, parce qu'ils n'ont pas de solidarité avec les autres. On peut toujours investir davantage.
Non, mais non, c'était la question sur voilà.
Quand on est dans une union et quand on est dans une zone euro, on ne peut pas vivre avec des déséquilibres macroéconomiques comme ceux qu'on a. Les pays qui sont endettés ou qui ont des déficits de balance courante, pour la plupart, les ont résorbés, sauf la France. Ça, c'est encore un effort à faire, qui dépend de notre compétitivité. Et l'Allemagne et les Pays-Bas, imperturbablement, enregistrent des surplus de 9%, qui sont, pour le coup, extrêmement perturbants, non seulement pour eux, mais pour l'économie de la zone euro tout entière.
Alors, il y a un pays, je le disais tout à l'heure, qui se pose des questions, qui s'affaiblit, enfin, en tout cas, voilà, avec une menace, c'est l'Italie. Donc, au-delà de la situation politique, est-ce qu'une crise souveraine est possible en 2018? C'est un sujet de tension, l'Italie, le financement de la dette italienne. Vrai problème, est-ce que l'Italie peut être à l'origine d'une nouvelle crise européenne, à votre avis, Pierre Moscovici?
Je ne le crois pas, parce que l'Italie, c'est l'Italie. Vous savez, il y a eu une formule, on parlait de Galilée, et pourtant elle tourne. Et la dette italienne est tout de même détenue par les Italiens, elle s'est un peu réduite ces dernières années, et jusqu'à présent, on a toujours réussi à trouver un parti qui finalement ne faisait pas assez de réformes, mais qui restait quand même, en gros, dans les règles. Quelle sera la configuration gouvernementale demain? Là est la grande incertitude. S'il prenait la fantaisie, un gouvernement italien, de dire tout à coup on s'affranchit de tout, alors là, c'est pas une crise souveraine qu'on aurait, mais c'est une crise politique, avec tout de même une dette risquerait de secouer un peu les choses. C'est la raison pour laquelle je dis au futur gouvernement italien, quel qu'il soit, que l'intérêt de l'Italie, après les Italiens en choisiront qui les dirige, est tout de même de réduire sa dette et de rester ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays européen au centre de la zone euro. J'ai du mal à être totalement pessimiste, je l'avoue.
Oui, j'ai entendu.
On m'accusera peut-être de voir les choses avec des lunettes roses.
François Langlais qui est avec nous, qui nous présente « Tordez le cou aux idées reçues », son dernier best-seller.
Écoutez, moi, j'ai du mal à être optimiste sur l'Italie. Alors, cela dit...
Politiquement, je suis pas optimiste. Hein.
Oui, non.
On a compris.
C'était au plan économique. Pour plusieurs raisons. Le PIB, depuis 10 ans, a chuté de 6 ou 7%. C'est extravagant. Hein. Alors, probablement, l'économie au noir a-t-elle absorbé une partie de tout ça? Et fournit-elle des revenus, notamment en dessous de Rome, quoi, en gros? Mais on est dans un cas de figure qui est un choc économique plus important que celui qu'a connu l'Italie dans les années 30, là, pour le coup. Et à cette aune-là, d'ailleurs, le choc politique actuel est même relativement modeste par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer il y a 15 ans. Je constate aussi une disparité au sein de l'Italie. Elle a toujours existé, mais elle s'est accrue là aussi de façon extraordinaire. Donc je ne vois pas très bien comment ce pays... La reprise actuelle est une reprisette. C'est pas du tout à la mesure des problèmes italiens.
La BCE peut venir au secours ou pas de...
Elle le continue, elle l'a fait massivement. Oui. Et c'est évidemment grâce à elle que la situation tient. Encore que, faut pas sous-estimer le fait qu'il y a peu de dettes qui est effectivement mondialisée. Tant mieux, parce que ça réduit les risques d'exposition à une tempête financière. Mais pour le coup, l'euro a été, au plan économique, une catastrophe pour l'Italie. Hein, parce que elle était habituée à dévaluer, alors là, beaucoup plus que nous l'avons fait. La dernière fois qu'elle l'a fait de façon massive, c'était au début des années 90. Et je me souviens avoir calculé la croissance depuis... le début de l'euro dans les différents pays européens. En France et en Allemagne, on est à plus 29%, hein, entre 99 et 2017. C'est le même chiffre. Donc l'Allemagne, finalement, au plan de la croissance, n'a pas plus profité que nous. Mais l'Italie, si ma mémoire est bonne, est à 7%. C'est-à-dire, sur 20 ans, le PIB a progressé de 7%. C'est très peu. Hein. Et je ne pense pas que ce grave problème ne soit pas enterré.
Je me corrige d'un mot en vous écoutant, parce que je ne voulais pas laisser penser que je suis optimiste pour l'Italie, qu'on peut continuer comme ça.
Non, vous avez dit que vous avez du mal à être pessimiste. Non,
sur un point, celui que vous aviez soulevé, c'est-à-dire est-ce qu'on est menacé par une crise
souveraine.
Ça, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Je pense que... mais pour autant... les problèmes de fond, qui sont les problèmes de la sous-croissance, de la stagnation, de l'absence de réformes, des inégalités nord-sud, sont massifs et ils sont potentiellement, et pour le coup politiquement, extrêmement dangereux, économiquement aussi, parce que c'est tout de même la troisième économie de la zone euro, la troisième économie d'Europe après le Brexit. Mais bon, mon point c'était juste la dette souveraine.
Emmanuel.
Et on continuera à surveiller ça de près.
Évidemment. Emmanuel Le Chypre.
Je suis pas extrêmement inquiet parce que moi je trouve que c'est vraiment un poids mort l'Italie en fait pour l'Europe. À la fois sur le plan économique. Oui, mais c'est neutre en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Sur le plan économique, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la situation de 2011 par exemple. Hein. L'Italie a beau avoir beaucoup souffert et notamment son industrie, l'Italie a un commerce extérieur équilibré aujourd'hui. Alors elle a pas beaucoup de croissance. Elle a des problèmes structurels, mais qui sont des problèmes purement italiens, sauf un majeur qui est la pression migratoire, et ça c'est considérable. Enfin, je veux dire qu'en Italie, on le voit, physiquement, la pression migratoire est quand même très forte, et ça c'est un problème que l'Europe doit traiter. C'est un problème majeur. Donc économiquement, tant qu'il n'y a pas effectivement un gouvernement italien qui dit qu'il veut sortir de l'euro, et à ma connaissance, ça n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de risque de crise financière, il n'y a pas d'abcès majeur. Et sur le plan politique, objectivement, Pierre Moscovici, ça fait combien d'années que l'Italie n'a pas été un moteur de la construction européenne? Donc, je considère que c'est un pays qui est neutre et qui a ses problèmes à lui, sauf la pression migratoire, encore une fois.
Juste la pression migratoire.
Traiter tous ensemble, et ça n'a pas été bien de laisser l'Italie seule.
Voilà, c'est ça. L'Italie qui se prend quand même de en pleine face les migrants qui arrivent. Est-ce qu'un jour, elle pourrait dire à Budapest, je paye plus pour vous si Budapest ne veut plus en accueillir? Est-ce que ça, c'est une menace, clairement, pour l'Europe, par exemple, la réélection d'Orban? Parce qu'on parle de l'Italie.
Mais je reste sur l'Italie. Parce que
on parle de GAFA,
François Langlais disait justement que les pro-européens qui ont dirigé l'Europe avaient leur part de responsabilité. Alors, là, certains diront, ils ont leur part de responsabilité parce qu'ils en ont fait trop. Moi, je pense qu'en réalité, on n'en a pas fait assez dans les sujets où il fallait en faire plus. Je ne dis pas qu'il faut en faire plus dans tous les sujets. Mais certains sujets, comme la politique migratoire, sont des sujets sur lesquels nous n'avons pas fait assez. Et les Italiens, c'est l'évidence, et ça se voit sur la carte électorale, se sont sentis en première ligne et isolés, laissés tomber par leurs partenaires. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire l'économie à long terme d'une politique migratoire commune qui passe par la protection de notre frontière qui est commune, qui passe par tout de même des mécanismes de partage du fardeau, qui passe par un droit d'asile qui soit commun. Et ça, on ne peut pas reproduire ça à l'état. éternellement, parce que sinon, on est dans le déficit de solidarité et on crée un sentiment de rejet terrible chez nos partenaires. Après, pour ce qui est de contribuer ou pas contribuer, vous savez, Monsieur Orban a été probablement réélu parce que la Hongrie est de tous les pays d'Europe celui qui bénéficie le plus des fonds structurels. Le paradoxe,
Comme la Pologne,
nous avons fortement soutenu la croissance de la Hongrie. Monsieur Orban s'est fait en quelque sorte, pardon, d'être vulgaire, du beurre sur notre dos.
Bon, comme ça c'est clair, en tout cas. Est-ce que l'Europe en fait assez pour taxer les GAFA, hein, les données du problème? C'est que l'impôt sur les sociétés ne peut pas appréhender l'activité des GAFA. Pas d'établissement stable, difficile de localiser le personnel, difficile de mesurer l'activité. Vous parlez de trou noir fiscal qui s'agrandit toujours plus, hein, Pierre Moscovici. Alors l'idée, ce que vous proposez, dans un premier temps, donc ça se fait en deux étapes, taxer à 3% les revenus générés par les recettes publicitaires, etc., où tout ce qui provient des données sont concernés, donc les boîtes dont le chiffre d'affaires annuel mondial s'élève à 750 millions d'euros et dont les revenus dans l'UE excèdent 50 millions d'euros. Et ensuite, donc seulement ensuite, devrait intervenir une réforme de fond des règles relatives à l'imposition des sociétés. Est-ce que le droit européen permet une taxe sur le chiffre d'affaires? C'est une sorte de deuxième TVA, en fait. C'est possible, ou pas?
Je vais prendre les choses dans l'autre sens. Bon, alors, parce que pour moi, ce qui est important et majeur, et je veux le dire, c'est la solution de long terme, la solution structurelle. C'est uniquement le jour où on saura identifier ce qu'on appelle la présence digitale. On a la présence physique, on n'a pas de présence digitale. On pourra l'introduire dans chacune de nos fiscalités nationales. Et on pourra aussi la connecter à travers une assiette commune consolidée d'impôts sur les sociétés. Là, on traitera vraiment le problème. Et on pourra aussi le traiter à l'échelle mondiale dans le cadre de l'OCDE et du G20. Et j'y insiste parce que je voudrais pas que la mesure fiscale de court terme, pour spectaculaire qu'elle soit, fasse oublier le fond du problème qui est vide.
Mais c'est quand même
juridique.
La question, Pierre Moscovici.
Alors après,
est-ce que cette étape intermédiaire ne compromet pas finalement l'étape ultérieure?
Il ne le faut pas. C'est pour ça que les deux, à mon avis, doivent cheminer en parallèle. Alors après, vous m'interrogez sur un point juridique où le droit européen n'interdit en rien. Vous savez, la Commission européenne est en général, elle est là pour être la gardienne des traités. Nous n'avons pas fait une proposition législative qui soit illégale. Elle ne l'est pas. Après, il faut éviter la double imposition. Nous y avons veillé. Je pense qu'il faut que cette taxe soit absolument temporaire. Est-ce qu'elle a des chances d'être adoptée? C'est ça la vraie question.
Ben oui, parce que quand on écoute Emmanuel Macron, hier, il n'a pas donné l'impression de vouloir extrêmement changer les règles du jeu dans ce domaine, avec des petits États à convaincre. Irlande, Pays-Bas, Luxembourg. Il faut l'unanimité quand même. Hein.
Pour en parler régulièrement avec Emmanuel Macron, oui, et très très souvent, ouais, Bruno Le Maire, aux côtés desquels je serai à Washington dans deux jours pour les réunions du Fonds monétaire international, je pense que la France a là-dessus une volonté politique. C'est très important qu'elle l'ait. C'est elle-même d'ailleurs qui a été un peu l'initiative sur ce sujet-là.
Avec Bruno
Le Maire,
de
faire en sorte,
ouais,
qu'on taxe les GAFA de manière appropriée. Et je pense que la taxe sur les chiffres d'affaires telle que nous l'avons proposée, nous, la Commission, est assez astucieuse. Parce qu'en vérité, en effet, ce sont les recettes publicitaires qu'on vise. C'est l'usager les données qu'il consomme qu'on veut taxer.
C'est le service rendu, par exemple,
et
pour Uber,
ça va concerner pour l'essentiel les réseaux sociaux, les moteurs de recherche.
Les boîtes du numérique, principalement?
Ben oui.
Les boîtes américaines?
Alors, ça n'est pas une taxe anti-GAFA.
Eh ben oui.
Ça, c'est pas exact. Parce que c'est beaucoup plus de 4 entreprises. C'est probablement 150 à 180 entreprises.
Et c'est quand même beaucoup des boîtes américaines. Google, Uruguayens ou Papou.
C'est en gros 50% de boîtes américaines, ouais, un tiers de boîtes européennes, le reste d'asiatiques, parce que c'est la physionomie, du marché. C'est pas une taxe GAFA, c'est pas une taxe protectionniste. Ça doit être une taxe temporaire. C'est une taxe qui permettra de rapporter 5 milliards d'euros minimum au trésor public européen, ce qui est quand même la moitié de ce qu'on perd avec le Brexit.
Pour le Brexit, voilà, bien
et
sûr,
je dis au passage que je suis favorable à titre personnel à ce que ça devienne une ressource propre de l'Union européenne, parce que nous en avons besoin pour financer un certain nombre de biens publics ou de biens collectifs. Et il y a une base de soutien qui n'est pas négligeable. Vous citiez quelques pays qui peuvent être un peu réticents, il faudra les convaincre, ça peut pas être totalement simple. Mais il y a aussi à peu près une vingtaine de pays qui sont favorables ou non hostiles, notamment les 5 grands, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Il y a de quoi faire et il faut aller vite, parce que si on ne conclut pas d'ici à la fin de cette année, on conclura pas.
Et on est d'accord, pour repréciser les choses, parce que c'est pas toujours évident aux yeux de certains, les GAFA fraudent ou font de l'optimisation fiscale? Il y a de l'évasion fiscale?
Ils fraudent pas.
Non.
Ce qui se passe simplement, c'est que nos outils de taxation des sociétés sont totalement inadaptés.
Des pourmis, voilà.
Ils ont été pensés il y a un siècle, avec des économies qui étaient totalement matérielles. Quand j'étais député à Sochaux, vous aviez une usine, vous produisiez tant de bagnoles, il y avait tant de bons hommes qui travaillaient. Là, on sait ce qu'on taxe. Oui. Avec les GAFA, c'est pas le cas. On n'a pas les outils.
Vous avez bien sûr ce phénomène-là, mais la toile de fond, c'est quand même l'extraordinaire disparité de la fiscalité au sein de l'Europe et particulièrement au sein de la zone euro, quoi. Hein.
C'est la raison pour laquelle on doit taxer, parce que sinon, chacun fera son petit truc dans son petit coin.
Oui, mais finalement, quand on regarde ça sur long terme, on se rend compte que ces problèmes se sont plutôt aggravés, quoi. Contrairement à ce qu'on avait pu penser, d'ailleurs, au moment de la constitution du marché unique, où souvenez-vous, vous étiez d'ailleurs l'un des acteurs clés de tout cela. On a rapproché les taux de TVA. Et en France, on a supprimé notre taux de TVA à 33%, qui frappait notamment les voitures, au nom de la logique européenne. Et finalement, les États ont complètement abandonné, au point même que, quand l'Europe a sauvé l'Irlande, le taux d'imposition sur les sociétés à 12,5% était un élément de négociation. Et l'Irlande s'est accrochée, l'Europe a cédé.
Merci, voilà, merci à tous. Alors François Langlais, je rappelle donc son dernier opus, hein, tordez le cou aux idées reçues. Moi j'aurais voulu aussi qu'on parle du protectionnisme qui soi-disant déclenche des guerres, des crises économiques. Bon bah vous remettez tout ça.
Vous réinviterez Fabrice.
Voilà, libre-échange généralisé, la mondialisation, ce que vous dites c'est une fée carabosse qui donne beaucoup à ceux qui ont déjà beaucoup et elle reprend à ceux qui n'ont que pas assez, qui n'ont que peu, puis d'autres choses. Voilà, les robots détruisent les emplois, le salariat va disparaître. Emmanuel Le Chypre avec nous également, donc éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Pierre Moscovici, les coulisses du quinquennat de François Hollande, où il a servi comme ministre de l'économie. Dans ce clair-obscur surgissent les monstres, voilà, les monstres qui pèsent sur l'Europe, notamment, il les a très très bien développés tout à l'heure. C'est le commissaire européen aux affaires économiques et financières. Merci à tous les trois, les décodeurs de l'écho, qui reviennent très très vite sur BFM Business. À bientôt.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.